roquette meurtrier sur l'hôpital Al-Ali, une tragédie qui a polarisé la tension lors du déplacement du président américain à Tel Aviv hier. Sur la base des informations que nous avons eues jusqu'à maintenant, il apparaît que la frappe soit le résultat d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza, a déclaré Joe Biden, appuyant la version d'Israël qui a imputé le tir au groupe palestinien Jihad islamique, nous venons de l'entendre, allié du Hamas, qui a lui démenti. Jean-Victor Nkolo, brièvement, une enquête internationale est-elle nécessaire pour faire la lumière une bonne fois pour toutes sur ce drame?
Je ne pense pas que les résultats d'une enquête internationale puissent satisfaire en réalité les uns et les autres, car la rue, ne serait-ce qu'au Proche-Orient, s'est déjà emparée d'une narration qui en réalité est alimentée depuis des décennies que dure ce conflit. C'était un jour véritablement mémorable quand le drapeau palestinien fut hissé aux Nations Unies, l'État de Palestine ayant été reconnu, dont il y a un peu plus de 10 ans, comme un État non membre, non permanent. Donc un statut un peu spécial, particulier. Alors, toute enquête est bien évidemment souhaitée, mais il faut craindre ici que des années de conflits, de malentendus et d'interminables disputes ont cristallisé les opinions de part et d'autre. Mmh. Il y a un pays africain très important, l'Égypte, qui est au front de cette affaire, parce qu'il faut maintenant que les provisions, les secours partent de l'Égypte, traversent la frontière à Rafah pour alimenter les Gazaouis qui sont pris dans l'enclave. Il faut aussi dire que cette dispute a cristallisé d'une certaine manière les opinions entre les États membres de l'Union africaine, puisqu'il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre.
On en parlera pour ou contre, dans un petit moment, Jean-Victor.
La présence.
Alors, juste pour ajouter, toujours à propos de cette frappe, le président Biden assure également avoir des éléments probants venant du Pentagone, en évoquant des données montrées par le département américain de la Défense qui disculpe Israël, selon lui. Mais Emilio Viano, parlons de la visite du président Biden elle-même. Quels ont été les objectifs principaux de ce voyage de Joe Biden en Israël?
Je pense que l'objectif principal était d'assurer Israël de l'appui des États-Unis et de souligner.
Nous avons un petit problème de duo avec notre invité Emilio Viano. On va essayer de régler ce petit souci très vite. Alors, Israël a dit hier autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, n'est-ce pas, depuis l'Égypte, comme le mentionnait Jean-Victor il y a un instant, ce qui était justement l'une des demandes du président américain à Tel Aviv. Henri Désiré Nzouzi, la visite de Joe Biden a-t-elle porter ses fruits dans une certaine mesure?
Oui, je pense qu'en dépit des critiques qui ont été formulées et en tout cas du scepticisme qui a plané sur l'objectif de sa visite au lendemain de ce tir de roquette sur l'hôpital, on peut dire que cet objectif est néanmoins atteint puisqu'il l'obtient. La possibilité d'acheminer une aide humanitaire, certes on dira qu'elle est insuffisante, effectivement, quand on sait qu'il y a près de 200 camions qui sont situés du côté de Rafah, côté égyptien, qui sont prêts à entrer, 20 seulement ont été autorisés à le faire. Cela pose évidemment la question des conditions de sécurité dans lesquelles ces convois seront acheminés, puisque vous le savez, il y a bien évidemment une méfiance quant à la manière dont ces véhicules pourront entrer dans la bande de Gaza et s'assurer effectivement que cette aide ne sera pas détournée par le Hamas. Mais cela va dans la bonne direction. Il était important de soulager les populations qui sont malheureusement contraintes de se regrouper dans le sud de la bande de Gaza. Il faut aujourd'hui qu'il y ait au moins, de ce point de vue-là, un soulagement, une aide qui puisse leur être apportée. C'est le plus important.
Jean-Victor, vous qui connaissez bien le monde des organisations internationales et continentales, comment voyez-vous le rôle de l'ONU, voire de l'Union africaine dans cette guerre entre Israël et le Hamas? Vous mentionnez il y a un instant le continent africain.
Je pense que c'est une opportunité absolument exceptionnelle pour l'Union africaine de jouer, peut-être pour une fois, un rôle prépondérant dans le début de recherche d'une solution à cette crise qui est très vieille. Pourquoi ? Parce que depuis pratiquement sa création, depuis les années de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a toujours eu un statut d'observateur, a toujours eu un invité qui vienne s'adresser aux chefs d'État lors des sommets annuels. C'était le cas de Yasser Arafat et c'est maintenant le cas de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Mais récemment, eh bien, c'est Israël qui a été invité à avoir un statut d'observateur au sein de l'Union africaine, ce qui a créé véritablement un conflit entre un groupe de pays et les autres, notamment l'Afrique du Sud et des pays comme l'Algérie qui ne voyaient pas cela d'un bon œil, alors que d'autres pays comme le Maroc ou encore le Kenya sont en faveur de cela. Cela remet un peu en surface les vieilles disputes, les vieilles divisions entre le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, mais en réalité c'est peut-être là une belle opportunité pour l'Afrique de se retrouver au centre de cette question et peut-être d'apporter une solution, même si l'Afrique a elle-même ses problèmes. Je pense que ces divisions, ces discussions peuvent permettre, n'est-ce pas, aux belligérants, notamment la partie palestinienne ou le monde arabe, et puis les Israéliens et leurs alliés occidentaux, de retrouver chez les Africains la possibilité de faire une palabre utile. Encore faut-il rappeler ici que par rapport à la perspective des Nations Unies, il est important de revenir à la résolution 242 et il est important de rappeler ce que le secrétaire général de l'ONU a si bien souligné, il s'agit de la solution de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution à cela, même si la contiguïté de l'État palestinien commence véritablement, à cause de la colonisation, à être une difficulté.
On reviendra sur cette question un peu plus en profondeur dans la seconde partie de Washington Forum. Henri, vous qui êtes justement à Kinshasa en ce moment, comment cette guerre est-elle vue en Afrique ?
Mon prédécesseur, parce que aujourd'hui.
Quelques petits soucis de connexion d'Internet avec Kinshasa. On va essayer de régler ce problème. Alors peut-être je peux vous poser cette question, Jean-Victor, parce que vous êtes en train de suivre justement ces réactions en Afrique. Comment cette guerre est-elle vue sur le continent africain ?
Eh bien, sur le continent africain et plus précisément au sein de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien M. Moussa Faki Mahamat, a eu beaucoup de difficultés car il a senti véritablement ce qu'on peut appeler en anglais un pushback, c'est-à-dire une réaction assez forte, notamment des États qui étaient contre l'avènement d'Israël en statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Des États, notamment l'Afrique du Sud et d'autres pays aussi, ont eu des mots très durs à cet égard. Et on a eu peur à un moment qu'il y ait même peut-être un début de scission au sein de l'Union africaine sur cette question. Il y a bien évidemment au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine des discussions qui se continuent, mais en réalité, ça ne va certainement pas effacer au sein de l'Afrique la controverse continue, la dispute continue entre essentiellement le Maroc d'une part et l'Algérie d'autre part sur la question du Sahara occidental. Mais pour revenir à la question israélo-palestinienne, il faut rappeler que les Palestiniens ont beaucoup d'amis en Afrique, tout comme les Israéliens ont beaucoup d'amis en Afrique. Il s'agit cependant maintenant pour le continent africain peut-être de définir un consensus, une position commune par rapport à cette crise. Certains y voient encore une question de décolonisation, d'autres y voient une question de paix nécessaire d'un pays vivant au sein de ses voisins arabes en paix et en sécurité. Je pense que l'Afrique peut trouver le moyen de proposer des solutions, car la question même de la colonisation est une question qui a été gérée en Afrique. Les territoires qui restent colonisés en Afrique sont très 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 peu nombreux. On a vu que les Africains ont réussi à gérer par la lutte, mais aussi par une sorte de position conceptuelle, mais aussi principielle, la question de la décolonisation. Nous avons donc, en tant qu'Africains, la possibilité d'apporter une valeur ajoutée à cette conversation.
Emilio Vianney, mes collègues à la régie, me signale qu'on a pu régler le petit problème de Dieu qu'on avait avec vous tout à l'heure. Alors, dites-nous, le président Biden a également dit hier qu'il demanderait cette semaine au Congrès américain une aide sans précédent pour l'allié israélien. Mais avec la Chambre des représentants sans président depuis deux semaines, nous sommes jeudi aujourd'hui et toujours pas de président à la Chambre des représentants, est-il actuellement impossible pour le chef de l'exécutif américain de faire voter une quelconque enveloppe pour concrétiser ses engagements?
Oui, c'est impossible. Selon la Constitution, toute loi qui parle de dépenses de l'argent du pays doit être commencé et approuvé par la Chambre des députés. Ainsi que maintenant, parce qu'il n'y a pas un président, il y a beaucoup de divisions entre les républicains, il serait impossible jusqu'à quand il y aura un président. Ça pourrait être très rapide, mais il semble qu'il y a des divisions si profondes et même personnelles entre les républicains que ça sera très difficile. Et on devra travailler ici aussi, monsieur le président, quand il revient à Washington, pour rétablir le fonctionnement, si vous voulez, du Parlement des États-Unis.
Et maintenant, des extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema de Ouagadougou au Burkina Faso. Voici un pays qui se dit pays des droits de l'homme et qui prend publiquement une position dans une situation de guerre. C'est triste, même si l'acte du Hamas est condamnable. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad. La visite de solidarité du président américain Joe Biden dans l'État hébreu pourra influencer son allié israélien à débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza et calmer la colère israélienne. Les puissances du Moyen-Orient devraient se désolidariser du Hamas, qui est un groupe criminel et terroriste, ne pouvant apporter un dième dans la consolidation de la paix dans le conflit israélo-palestinien. Et voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 19 octobre 2023. Nous braquons les projecteurs sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. L'aide humanitaire va entrer dans la bande de Gaza, privée de tout depuis 10 jours, a indiqué le gouvernement israélien à la fin du passage hier à Tel Aviv du président américain. C'était au lendemain de la frappe meurtrière sur l'hôpital Al-Ali de Gaza qui a soulevé un vent de colère au Moyen-Orient. Venu en personne soutenir son allié meurtri, Joe Biden a soutenu la version donnée par l'armée israélienne sur ce tir de roquette qui accuse le djihad islamique, un autre groupe palestinien. Le locataire de la Maison-Blanche a également affirmé que la libération des otages retenus dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque du Hamas était la plus grande priorité. Et nous retrouvons nos invités pour continuer à en parler dans cette seconde partie du du programme. Et donc, en direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, Emilio Viano, professeur de droit à l'American University, il se trouve ici même à Washington, et Henri Désiré Nzouzi, analyste politique et consultant en relations internationales. Il nous rejoint via Skype de Kinshasa. Merci à vous d'être toujours avec nous. Pour le président américain, cette guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le samedi 7 octobre dernier renforce sa détermination pour une solution à deux États, l'un palestinien et l'autre israélien. Jean-Victor Nkolo, vous en parliez un petit peu tout à l'heure dans la première partie. À quand remonte cette proposition pour régler le conflit israélo-palestinien et est-elle toujours possible aujourd'hui?
Eh bien, ce conflit remonte pratiquement à la création des Nations Unies. Il y a donc pratiquement 75 ans que le monde essaye de gérer cette question très difficile. On peut aller historiquement encore plus loin, depuis la déclaration de Balfour, n'est-ce pas, du colonisateur anglais, ou plutôt britannique à l'époque. Mais ce qu'on peut dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, on peut faire deux choses sans contradiction. On doit et on doit condamner effectivement les actes terribles qui ont été perpétrés en Israël par le Hamas, car voir des enfants enlevés, tués, des femmes, des vieillards pris en otage, ce n'est pas acceptable. Mais on peut aussi et on doit aussi en même temps regretter la terrible souffrance et les morts beaucoup trop nombreuses à Gaza, où des populations très importantes, 2 millions de personnes sinon plus, sont vraiment le dos au mur avec la mer sans où aller, et avec des frappes quotidiennes et une souffrance indescriptible. Donc on peut faire les deux choses en même temps. Mais ce qu'il faut faire, c'est revenir à une chose qui paraît difficile, qui est la solution des deux États. Il faut donc trouver le moyen, même si la continuité de l'État palestinien, la Cisjordanie d'une part, et puis la bande de Gaza d'autre part, n'est peut-être plus une réalité, mais il faut trouver un arrangement qui permette à ces deux nations, frères et sœurs, parce que ça remonte au temps biblique, de pouvoir vivre ensemble dans la paix et la sécurité.
Mais en deux mots, Jean-Victor, cette solution à deux États, avec la situation actuelle, est-elle toujours possible ?
Il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Personne dans la communauté internationale n'a encore jusqu'ici proposé une solution qui serait autre que celle de deux États.
D'accord.
Parce que ces deux peuples sont d'accord. Condamnés oui. à vivre côte à côte.
Absolument. Emilio Viano, comment Israël et ses alliés, dont les États-Unis, doivent-ils répondre aux menaces de l'Iran concernant une possible action préventive en cas d'offensive terrestre contre Gaza ?
Je pense que la meilleure défense serait de pratiquer ce qu'on a promis, les deux États, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pratiquement impossible. Israël n'a aucune intention de le faire. Et les États-Unis, naturellement, et beaucoup d'autres pays sont indifférents aux souffrances des Palestiniens et l'impossibilité de réaliser les deux États. Ainsi que je pense que c'est la
mais
meilleure...
Mais quid des menaces de l'Iran? Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu, professeur. Alors, j'ajoute que quelques 2000 membres de l'armée américaine ont été placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël. Un porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois précisé qu'il s'agissait avant tout d'un signal de dissuasion et non de troupes de combat. Henri Désiré Nzouzi, voilà, vous êtes de retour également avec nous. Après le déclenchement de cette guerre, des manifestations anti-Israël ont été tenu dans nombre de pays, alors que des attentats meurtriers ont été perpétrés en France et en Belgique. Faut-il craindre un débordement du conflit Israël-Hamas au Moyen-Orient et au-delà, faut-il redouter une aggravation du danger terroriste, notamment dans les pays qui soutiennent Israël ?
Écoutez, la menace terroriste en Europe est totalement indépendante de la situation qui prévaut actuellement en Israël. La preuve, c'est qu'il y a toujours eu cette menace terroriste depuis maintenant une quinzaine d'années. Et maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans les pays arabes, il faut distinguer d'une part les opinions publiques qui, elles, sont traditionnellement très favorables au traitement de la question palestinienne, mais vous avez la plupart des régimes arabes qui sont allergiques au mouvement islamiste. Et ça, c'est important de faire la part des choses. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais juste revenir par rapport au rôle que peut jouer l'Afrique. Le rôle que peut jouer l'Afrique est quasiment nul. Vous avez trois groupes de pays, un qui ne reconnaît pas Israël, parmi eux on trouve la Tunisie, l'Algérie, le Mali, le Niger et Djibouti. Vous avez un deuxième groupe qui a d'excellentes relations diplomatiques et commerciales avec Israël, mais qui n'accepte pas le comportement d'Israël sur la question palestinienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et puis vous avez un troisième groupe de pays qui, eux, traditionnellement, sont plutôt favorables à l'État hébreu. Parmi ces pays, il y a bien évidemment la République démocratique du Congo, il y a le Togo et quelques autres pays comme le Kenya. Donc c'est important de pouvoir relever, avoir présent à l'esprit cette ligne de fracture au sein de l'Union africaine. Il n'y a pas unanimité sur la question palestinienne, il n'y a pas unanimité sur la manière dont il faut justement traiter le cas d'Israël à cause justement de ces lignes de fracture. Pour le reste, je pense que les pays arabes ont intérêt effectivement à ce qu'émerge un interlocuteur qui soit beaucoup plus, je dirais, en capacité d'écouter, mais dans le même temps, il faut aussi espérer qu'en Israël, il y ait moins, je dirais, d'extrémisme, qu'il y ait moins, je dirais, de sentiments de vengeance pour aller au-delà de ce qui pourrait être toléré par le droit international, parce qu'à l'heure actuelle, ni le gouvernement actuel d'Israël, ni le Hamas, qui, je le rappelle, est un groupe terroriste et n'est pas un État, ne sont dans une disponibilité d'esprit pour discuter sur une solution à deux États, puisque le Hamas prône la destruction de l'État hébreu. Et aujourd'hui, Israël, aujourd'hui, est dans une dynamique pour essayer de faire ce que le Hamas a fait le 7 octobre dernier.
Mmh. Et nous l'avons appris aujourd'hui, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah de Jordanie évoqueront ce jeudi au Caire cette guerre entre Israël et le Hamas. C'est ce qu'ont annoncé les deux pays après l'annulation d'une rencontre à Amman avec le président américain Joe Biden hier. Jean-Victor, quelle lecture faites-vous de l'annulation de cette réunion? Qu'aurait-elle pu faire pour mettre un terme à cette guerre, mais aussi face à la peur d'un embrasement à l'échelle régionale? Brièvement.
Au moment où le président Biden se rend en Israël, c'est au cours de son voyage, n'est-ce pas, qu'on apprend cette chose terrible qui est arrivée à l'hôpital Al-Ali avec des centaines de morts. Donc il faut reconnaître au président Biden une certaine dose de courage, car même s'il n'a pas été reçu par ses pairs arabes, il a quand même réussi à trouver, à ouvrir la porte à l'aide humanitaire. Et cela n'est pas rien, car il a fait montre d'une détermination, d'un courage, et peut-être qu'il a certainement parlé à ses alliés, à ses amis israéliens, le langage de la vérité, dans les conciliabules un peu plus secrets. Je voudrais simplement dire à mon confrère congolais que je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que aujourd'hui, l'Union africaine demeure un de ces rares forums internationaux où les Israéliens et les Palestiniens se retrouvent, sont invités. Donc les Africains sont certes bien divisés, comme il l'a si bien montré, mais c'est peut-être une plateforme, un forum au sein duquel les Israéliens et les Palestiniens peuvent se parler avec peut-être une médiation africaine. Pourquoi pas ?
Emilio Viano, quelle est la perspective d'une solution à long terme pour éviter de futurs conflits entre Israël et toute force contrôlant les territoires palestiniens, brièvement si vous pouvez?
Je pense que c'est l'application des accords d'Oslo, les accords de Camp David, les déclarations des présidents des États-Unis qui appuient la solution de deux États. Malheureusement, je pense qu'Israël n'a aucune intention de le faire. Au contraire, il essaie chaque jour d'éliminer la présence des Palestiniens dans Jérusalem. ainsi que je pense qu'il y aura
tu vas noter que nous allons suivre certainement absolument Washington Forum y reviendra. Voilà, point final à cette édition de Washington Forum. Un grand merci à nos invités Henri Désiré Nzouzi, Emilio Viano et Jean-Victor Nkolo. Nous disons merci également à toutes nos radios et télé partenaires et bien évidemment merci à vous chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.